c'est l'heure des enjeux internationaux. C'est la fête du travail aujourd'hui aux États-Unis et à 9 semaines des élections de mi-mandat, le président Biden sera aujourd'hui à Milwaukee et à Pittsburgh, dans l'état de Pennsylvanie, à l'est du pays, deux villes de tradition ouvrière. Jeudi dernier, le président américain était déjà en Pennsylvanie, à Philadelphie. Il a tenu un discours très pugnace, fustigeant les républicains trumpistes focalisés sur les questions identitaires. Et puis, même si les mid-terms élections, comme on dit aux États-Unis, sont souvent un camouflet pour l'administration en place, parce que ce sont les électeurs mécontents qui se mobilisent pour renouveler les sièges de la Chambre des représentants et un tiers du Sénat, eh bien Joe Biden est bien plus offensif qu'au début de l'été. Il veut croire à une mobilisation de l'électorat démocrate qui donne depuis quelques semaines des signes de frémissement enhardi par plusieurs victoires politiques au cours de l'été. Alors pour en parler, nous sommes ce matin avec Corentin Célin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur agrégé d'histoire, enseignant en classe préparatoire aux grandes écoles, spécialiste des États-Unis. Corentin Célin, la Pennsylvanie concentre en ce moment l'attention politique aux États-Unis. Pourquoi le renouvellement des sièges au Congrès de cet État de la côte Est, réputé pour être un État dont les électeurs changent d'opinion, un swing state, est-il un cas d'école de la politique américaine aujourd'hui ?
Oui, c'est un État où tous les regards se concentrent pour plusieurs raisons. D'une part, c'est un État qui, en 2016, avait choisi, à la surprise générale, Donald Trump et l'avait porté à la présidence. En particulier dans l'ouest de cet État, c'est un État qui est en quelque sorte le berceau du trumpisme, avec beaucoup d'électeurs blancs de secteurs ruraux et industriels anciens. C'est évidemment un État test, hein, où il y a deux courses en plus, deux élections vraiment que tout le monde regarde. Une élection sénatoriale qui pourrait déterminer la majorité. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, démocrates et républicains sont à 50-50. Il y a un siège qui est de sénateur qui est ouvert en Pennsylvanie. Et dans cette course sénatoriale, les républicains ont choisi un candidat justement aligné sur Trump, une célébrité nationale, le docteur Oz. Mmh. Et ça se passe assez mal pour lui pour le moment. Mmh. Et donc, dans cette course en Pennsylvanie pour la sénatoriale, les démocrates espèrent récupérer ce siège qui est actuellement détenu par un républicain qui ne se représente pas. Toomey. Et donc, les démocrates misent beaucoup d'espoir sur cette course et c'est pour ça que Joe Biden s'y rend aujourd'hui. Par ailleurs, il y a aussi une élection de gouverneur en Pennsylvanie où les républicains ont là choisi un candidat extrémiste, Mastriano, qui était parmi les émeutiers du Capitole, qui est lui aussi évidemment totalement raccord avec Donald Trump. Et ce sera un test pour savoir si ces candidats très extrémistes à droite peuvent passer, j'allais dire, le cap d'une élection générale où il faut séduire les électeurs modérés. Donc voilà pourquoi, en quelques mots, la Pennsylvanie est au cœur des préoccupations politiques.
Et d'ailleurs, Donald Trump était en Pennsylvanie ce week-end, hein, quasiment dans le fief des Biden. Ça avait l'air d'une provocation, en fait.
Oui, tout à fait, puisqu'il faut rappeler que même si Joe Biden a fait carrière dans l'État voisin, dans le tout petit État voisin du Delaware, il est natif de Pennsylvanie. Et effectivement, Donald Trump, pour lui, la Pennsylvanie, c'est très important parce que c'est vraiment un des États qui a porté la révolution conservatrice trumpienne. Et si jamais ces candidats, donc que ce soit Oz ou Mastriano, ne performent pas en novembre, ce sera un coup très dur pour Trump et pour l'emprise qu'il a réussi à établir via les primaires sur le Parti républicain.
Alors s'il y a encore quelques mois, il y avait peu de doute que les républicains allaient très largement remporter les midterms de novembre, l'électorat démocrate, dont certains craignaient la dispersion, semble se remobiliser en réaction notamment à la décision de la Cour suprême de juin dernier sur la question de l'avortement. Comment s'est manifestée cette réaction, Corentin Célin, au cours de l'été ?
Alors, elle s'est manifestée très concrètement par des résultats électoraux très surprenants. Le premier, le 2 août, a été le résultat du référendum tenu au Kansas pour modifier la constitution locale afin de pouvoir faire une interdiction de l'avortement. Il fallait en effet pouvoir modifier la constitution qui, depuis les années 1980, protège le droit à l'intimité et donc le droit à l'avortement au Kansas. Or, à la surprise générale, dans un État qui est quand même conservateur, hein, il faut rappeler qu'au Kansas, on n'a pas voté pour un président démocrate depuis 1936. Donc on est vraiment dans un État assez conservateur.
Depuis Roosevelt.
C'est Oui, voilà, depuis Roosevelt. Eh bien, dans cet état, la proposition de modification constitutionnelle a été rejetée massivement, hein, à plus de 57%, c'est-à-dire qu'on a laissé en place la protection constitutionnelle locale du droit à l'avortement, ce qui fait qu'au Kansas, on ne peut pas interdire l'avortement. Et donc, cette victoire référendaire a été un premier, j'allais dire, une première bouffée d'oxygène électoral pour les démocrates, qui ensuite ont aussi obtenu des résultats très, très surprenants et satisfaisants lors des partiels tenus pour les élections au Congrès. Hein. Il y a eu toute une série de partiels d'élections pour donner de nouveaux représentants à la suite de démissions ou de décès. Et en particulier, les démocrates, à la surprise générale, l'ont emporté dans un district, dans une circonscription assez conservatrice du nord de l'État de New York, le 19e district. Puis, on l'a vu la semaine dernière, l'ont emporté à la surprise générale, en Alaska, contre la fameuse conservatrice radicale Sarah Palin. Donc, on voit bien des résultats, alors que normalement, les élections partielles sont toujours très mauvaises pour le parti au pouvoir. Eh bien là, ces élections partielles montrent un progrès électoral des démocrates. Pourquoi? Parce que les jeunes de 18 à 30 ans et l'électorat féminin se sont surmobilisés.
Et justement, alors, on sait qu'ils se sont surmobilisés dans l'État du Kansas, vous l'avez évoqué. Est-ce qu'on sait aussi s'ils se sont mobilisés dans les autres États? Par exemple, on sait que en Californie, dans le Kentucky, il va y avoir aussi en novembre des questions qui seront posées sur la question de l'avortement. Est-ce qu'on peut s'attendre, d'ailleurs, sur cette question de l'avortement, à des surprises comme celle du Kansas, sachant que l'électorat est peut-être aussi mobilisé dans ces États? Corentin Célin.
Alors, en Californie, ça ne devrait pas poser de problème, puisqu'on sait que depuis 20 ans, cet État a totalement basculé du côté démocrate et progressiste. Mais le Kentucky sera en effet un nouveau test, puisqu'il s'agit d'un État, là aussi, relativement conservateur, solidement enraciné dans le camp républicain. Et on voit dans cet état-là également une surmobilisation qui passe par exemple par une hausse conséquente des inscriptions électorales chez les jeunes et chez les femmes. Et ça, depuis la décision de la Cour suprême supprimant la protection constitutionnelle du droit à l'avortement. On avait vu au Kansas, avant le référendum, les femmes s'inscrire beaucoup plus massivement que les hommes sur les listes électorales quand elles ne l'étaient pas. Et on voit le même phénomène en train de se reproduire dans beaucoup d'États, et en particulier dans un État comme le Kentucky, où va se tenir une consultation référendaire sur l'avortement. Et c'est vraiment ça qui donne de l'espoir aux démocrates, alors même que le contexte économique en particulier et le problème de l'inflation laissaient augurer au début de l'été une défaite électorale massive. Ce n'est plus du tout le cas, parce que précisément les électorats socles du Parti démocrate, les jeunes de 18 à 30 ans, les femmes en particulier issues des minorités, semblent vouloir se mobiliser.
Il faut aussi dire d'ailleurs, Corentin Célin, que sur le plan juridique, au début du mois d'août, l'administration Biden, qui avait promis donc de réagir pour défendre l'accès à l'avortement après l'arrêt de la Cour suprême en fin juin, a attaqué l'État de l'Idaho qui avait interdit ou qui souhaite interdire presque tous les avortements. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette initiative donc du gouvernement, du ministère de la justice américaine contre un État?
Oui, alors c'est très important parce que l'administration Biden avait été très critiquée par les associations pro-avortement, les associations de défense des droits des femmes pour la mollesse de sa réaction après la décision de la Cour suprême. Et donc, après un petit moment de stupeur, l'administration Biden a décidé d'être beaucoup plus proactive et d'attaquer en l'occurrence l'État de l'Idaho qui avait édicté une interdiction de l'avortement sur un motif, j'allais dire, assez recherché, puisque l'administration Biden a plaidé que cette interdiction de l'avortement en Idaho allait interdire à certains médecins de pouvoir pratiquer des soins d'urgence, des soins médicaux d'urgence vitale sur des femmes enceintes, puisque la loi de l'Idaho anti-avortement prévoit que tout médecin pratiquant un avortement est assimilé à un criminel et peut être poursuivi au pénal. Et donc le ministère de la Justice fédérale, l'administration Biden, a attaqué en justice en disant cela viole la loi fédérale puisque on interdit à des médecins qui en plus travaillent dans des hôpitaux fonctionnant sur fonds publics de pratiquer des soins d'urgence. Et la justice fédérale, un juge fédéral, a rendu une première décision favorable au ministère de la Justice d'administration Biden en disant « oui, c'est vrai, les médecins doivent pouvoir pratiquer des soins d'urgence vitales sur des femmes enceintes en cas de besoin. Cependant, et là c'est le point moins positif pour l'administration Biden, l'Idaho a quand même le droit d'interdire l'avortement. » Mais on voit une petite victoire juridique qui montre surtout que l'administration Biden se bat, elle est vraiment active, et ça aussi, ça plaît à l'électorat démocrate qui se sent enfin défendu et qui se dit « Ah, enfin, nous aussi, on fait comme les républicains, on va en justice, on se bat et on ne se laisse plus faire. »
Justement, cette pugnacité des démocrates, elle a été incarnée par Joe Biden lors de son discours de Philadelphie jeudi dernier. Il a pris pour cible de façon très virulente les MAGA, ce qu'on appelle les Make America Great Again, qui est une frange donc complètement trumpiste des républicains. Est-ce que selon vous, ces MAGA, est-ce qu'ils sont nombreux? Est-ce que c'est l'intégralité des électeurs républicains ou pas du tout, Corentin Célin?
Alors, justement, c'est aussi une des grandes leçons de l'été politique aux États-Unis, c'est qu'incontestablement, la faction trumpiste, la faction MAGA, a pris le pouvoir dans le Parti républicain. Les primaires républicaines ont quand même donné le plus largement possible la victoire à des candidats qui, comme Trump, continuent à nier la légitimité de Biden, à nier le résultat électoral de 2020. Et à l'intérieur du Parti républicain, cette faction est aujourd'hui incontestablement dominante.
Oui, et d'ailleurs, ils considèrent, pardon de vous interrompre, ils considèrent aussi cette faction que la violence est un instrument politique. Hein.
Ah oui, absolument. Et la plupart, d'ailleurs, on a évoqué Mastriano en Pennsylvanie, sont très complaisants, voire ont même participé vis-à-vis de l'insurrection du Capitole. Hein. Donc voilà, vraiment, la violence politique est considérée comme un moyen possible, justement, pour contester l'élection. Donc cette faction est aujourd'hui dominante dans le Parti républicain. Joe Biden l'a bien noté. Et ce qu'il essaye de faire, c'est évidemment de dire, de la stigmatiser, de l'étiqueter comme extrémiste de droite, voire, comme il l'a dit il y a quelques semaines, semi-fasciste, pour en éloigner les électeurs modérés qui sont décisifs dans l'élection générale. Autrement dit, Biden fait le pari que les républicains, en se décalant tellement loin à droite, sont devenus inéligibles durant les élections générales parce qu'ils vont faire fuir les modérés. Et donc Biden insiste sur ce point pour alerter les électeurs modérés, j'allais dire de tous bords, vis-à-vis de cette extrême droite républicaine. Cependant, c'est un pari risqué parce que on l'a vu jeudi lors de ce discours de Biden en Pennsylvanie, il semble exclure une partie de la nation du corps démocratique en disant vous n'êtes pas des démocrates. Et évidemment, depuis lors, les Trump et ses partisans prennent une posture victimaire en disant regardez ce président, normalement chef de la nation, qui nous exclut du corps de la nation américaine. Donc on a là vraiment une bataille électorale fondamentale autour de la notion de démocratie.
Dernier point important aussi, Corentin Célin, c'est qu'il n'y a pas que sur le plan électoral que l'été a souri au président Biden, mais parce que le Sénat a aussi adopté un plan climat et santé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que contient ce plan? Vous n'avez pas beaucoup de temps, 2 minutes. Et aussi comment ça s'est passé, comment il y a eu une négociation avec une toute petite partie de la frange droite des démocrate au Sénat. Corentin Célin, vous n'êtes plus avec nous. Non? Bien, c'est dommage. Alors, vous aurez peut-être pu nous expliquer que, effectivement, c'était Joe Manchin qui est donc un démocrate mais à la droite du Parti démocrate, qui a finalement été accepté de voter donc ce plan climat et santé, en dépit du fait que, Joe Manchin est assez strict et qu'il était notamment assez opposé au budget qui a été présenté par les démocrates. Et Joe Manchin, qui est donc un élu de Virginie occidentale et qui aurait d'ailleurs obtenu en échange quelques rétrocessions de la part du gouvernement Biden. Bon, écoutez, puisqu'on on a perdu Corentin, c'est là, on en est bien triste. Les enjeux internationaux, c'est fini pour aujourd'hui. On aura des nouveaux enjeux.
Bah, il y en aura d'autres.
Demain, il y aura des enjeux territoriaux à 6h10 et puis des enjeux internationaux à 6h41.
France Culture, l'esprit d'ouverture.